Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. Dans la salle Paul VI au Vatican, le pape François a accueilli plus de 6000 personnes pour l'audience générale du mercredi 5 février 2025. Poursuivant son cycle de catéchèses intitulé « Jésus-Christ, notre espérance », le Saint-Père, confiant la lecture de sa catéchèse à un official de la secrétaire d'État à cause d'un rhume, a invité chacun à suivre l'exemple de Marie, qui a su attendre l'accomplissement des promesses du Seigneur. Dans la suite de l'actualité de l'Église de cette édition, nous ferons aussi un retour sur la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée au Tchad, dimanche 2 février, ainsi que sur le jubilé du monde de la communication, célébré en Côte d'Ivoire samedi dernier, sous la présidence de l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Ignace Bessi. Le Conseil des Églises du Soudan du Sud vient de mettre au point un manuel pour tenter d'enrayer la spirale des conflits dans ce pays. Nous en parlerons de l'actualité sociopolitique sur le continent, qui nous conduira entre autres en République démocratique du Congo et au Soudan. Et nous conclurons l'édition de notre programme avec notre invité du jour, le sociologue burkinabé Roger Dayamba Bendré, membre du Pacte PAN, le réseau panafricain de théologie catholique et de pastorale. Ce sera tout pour les titres, les détails dans un instant dans cette édition que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Dans la salle Paul VI au Vatican, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur l'enfance du Christ avec l'évangile de la Visitation. Souffrant d'un rhume, il a préféré laisser un official de la secrétaire d'État lire sa catéchèse, dans laquelle François a invité chacun à suivre l'exemple de Marie, l'exemple de celle qui a su attendre l'accomplissement des promesses du Seigneur. Écoutons les précisions de Jean-Benoît Harel.
L'évangéliste Luc raconte la visite de la Vierge Marie, enceinte de Jésus à Sainte Élisabeth, enceinte elle de Saint Jean-Baptiste. Après l'annonce de l'ange, Marie se lève, ne craint pas les dangers et part à la rencontre du monde. Selon le Saint-Père, ce geste illustre la disponibilité illimitée de Marie et est motivé par l'amour de Dieu qui saisit et met en mouvement. Auprès d'Élisabeth, la mère de Jésus vient partager sa foi dans le Dieu de l'impossible et son espérance dans l'accomplissement de ses promesses. François s'est ensuite arrêté sur la prière du Magnificat que Marie prononce en rencontrant sa cousine, un chant de louange à Dieu en souvenir de la libération d'Israël. Elle chante la grâce du passé, mais elle est la femme du présent, qui porte l'avenir en ses entrailles, a poursuivi le souverain pontife. L'accueil de l'enfant Jésus n'est pas un simple épisode, mais s'inscrit dans le flot ininterrompu d'amour miséricordieux de génération en génération sur le peuple fidèle à l'Alliance depuis Abraham. Ainsi, le pape a invité à s'inspirer de l'exemple de Marie, d'accueillir le Seigneur dans nos vies, car comme le disait saint Ambroise, « toute âme qui croit et espère, conçoit et engendre le Verbe de Dieu ».
Merci Jean-Benoît. À présent, un retour sur la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée au Tchad. Dimanche 2 février, plusieurs événements dans les différents diocèses de ce pays ont marqué cette célébration, notamment de l'archidiocèse de N'Djamena, les diocèses de Sar et de Koumra, où les prélats ont invité les consacrés, mais aussi les fidèles, à être à l'écoute de l'Esprit et les ont exhortés à la fidélité du Seigneur afin de mieux se mettre au service de l'Église. Le compte-rendu d'Edouard Takadji.
Dans les diocèses des Sages, c'est l'ordinaire du lieu, Mgr Miguel Sébastien, qui a présidé cette Eucharistie à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception pour marquer cette journée. Dans son exhortation, en s'adressant aux religieux et religieuses de son diocèse, le prélat a insisté sur la fidélité et la patience.
Cette Église attend beaucoup de vous. Ne la décevez pas. La fidélité, c'est pour vous consacrer une grande vertu.
Du côté du diocèse de Koumbra, c'est le vicaire général du diocèse, l'abbé Rodrigue Modrina Solingar, représentant l'évêque qui a officié l'Eucharistie en cette solennité de la présentation du Seigneur Jésus-Christ au temple, mais aussi clôturer la fin des activités de l'enfance missionnaire. Dans l'archidiocèse de N'Djamena, c'est à la paroisse Saint-Charles-Borromée de Farcha que les religieux et religieuses se sont retrouvés pour rendre grâce à Dieu, partager leur expérience, mais également échanger avec les jeunes des différents groupes de vocation. À travers une Eucharistie présidée à la paroisse Saint-Joseph de Marjandafak, Mgr Edmondji Tangara a rendu grâce à Dieu pour ses 33 ans d'épiscopat. Il a centré son homélie lors de cette célébration sur le sacrement du baptême.
Il est impossible d'être prêtre si on n'a pas été baptisé, si on n'est pas chrétien. Il est impossible d'être évêque si on n'a pas été baptisé, si on n'a pas été chrétien. Il y a 63 ans, j'ai reçu cet appel et je voudrais encore chaque jour le renouveler parce que je peux oublier d'être prêtre, je peux oublier d'être évêque, mais je ne peux pas oublier d'être chrétien.
Edouard Takadi Ndiamena pour Radio Vatican.
Toujours en la date du dimanche 2 février, en la fête de la présentation de Jésus au Temple, l'école d'initiation théologique et pastorale de Cotonou au Bénin a célébré son 7e anniversaire de création. C'était aussi l'occasion pour l'ordinaire du lieu, Mgr Roger Umbeji, de procéder à l'envoi en mission de la 6e promotion de cette école. Les détails avec notre correspondant au Bénin, Juste Halanan.
Déjà 7 ans que dure l'expérience de l'école d'initiation théologique et pastorale de Cotonou et la célébration de ce 7e anniversaire a consisté en une messe célébrée par Mgr Roger Umbeji, archevêque de Cotonou, qui inaugurait cette école diocésaine 7 ans plus tôt. Dans son homélie, l'archevêque de Cotonou a rappelé son attente vis-à-vis de cette école.
Ce que je veux pour cette école, ce que j'attends de vous, ce n'est pas d'abord la connaissance livresque, mais plutôt la connaissance personnelle de Jésus-Christ, connaissance donnée par l'Esprit Saint, comme pour Siméon, connaissance mûrie dans la vie de prière, prière persévérante, comme la prophétesse Anne.
L'archevêque de Cotonou exhortera les laïcs religieux et religieuses inscrits à cette école tour à tour à la purification totale de leur vie, une entière docilité à l'Esprit Saint et une intense vie de prière. Christiane Tokwasi, l'une des 31 récipiendaires de cette 6e promotion, exprime son satisfaction.
Cette formation m'a apporté tellement de choses que je ne saurais décrire. C'est une expérience qui ne se raconte pas, mais qui se vit.
Cotonou, Juste Renon pour Radio Vatican.
Et en Côte d'Ivoire, samedi 1er février, le diocèse d'Abidjan a célébré le jubilé 2025 du monde de la communication. La messe présidée par le cardinal Ignace Dogbo Bessi a eu lieu à la chapelle d'adoration de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Lors de son homélie, le prélat a exhorté communicateurs et journalistes catholiques de son archidiocèse au courage, à la persévérance et à la détermination afin d'exercer leur profession en toute vérité. Les précisions de Marcel Ariston Blé.
Le cardinal Ignace Dogbo Bessi, dans son homélie, a rappelé aux hommes et femmes des médias de son diocèse l'urgence de leur mission en tant que baptisés disciples du Christ. Pour nos églises particulières en Afrique, a poursuivi l'archevêque métropolitain d'Abidjan, il vous faudra du courage, de la persévérance et la détermination pour exercer votre profession et avancer sur le chemin de la vérité. Dans une Afrique saturée de mauvaises nouvelles, accablée par des crises et des tensions de toutes parts, minée par des conflits économiques et des guerres fratricides qui déciment la communauté humaine, il s'agira de communiquer des motifs d'espérance. Quant à l'église de la Côte d'Ivoire et particulièrement pour le diocèse d'Abidjan, le cardinal Bessi a souhaité que les acteurs du monde de la communication relèvent l'espérance dans notre pays dont l'hymne national commence par « Salut aux terres d'espérance ». Les joutes électorales d'octobre 2025 approchant à grands pas, l'archevêque métropolitain d'Abidjan s'inspirant de leur dernier message délivré à Bondoukou a appelé les journalistes et autres agents des médias à respecter les valeurs d'intégrité et de décence. Ces acteurs du monde de la communication devront aussi, selon le prélat, dans l'exercice de leur profession et dans le déploiement de leurs activités, faire preuve de vigilance et de prudence et d'honnêteté et surtout résister à toute tentative de corruption et de pression, fuyez tout ce qui pourrait compromettre votre responsabilité éthique envers la nation, les a-t-il invités. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le M23 et les troupes rwandaises ont lancé mercredi une nouvelle offensive dans l'est de la RDC et se sont emparés de la province du Sud Kivu, de la cité minière de Niabibwe à environ 100 km du chef-lieu Bukavu, ont indiqué des sources sécuritaires et humanitaires. Le groupe armé antigouvernemental et ses alliés rwandais ont initié à l'aube d'intenses combats contre les forces armées congolaises selon ces sources. Après s'être emparé la semaine dernière avec les forces rwandaises de la ville de Goma, capitale de la province voisine du Nord Kivu, le M23 avait décrété unilatéralement un cessez-le-feu humanitaire censé être en vigueur depuis mardi. Un autre conflit sur le continent africain qui ne cesse de faire rage, c'est celui qui déstabilise le Soudan du Sud, plus jeune nation du monde. Dans ce pays qu'avait visité le pape François il y a 2 ans, les églises du Soudan du Sud poursuivent leur engagement pour la paix et la réconciliation. Ainsi, le Conseil des églises de ce pays vient de mettre au point un manuel pour tenter d'enrayer la spirale des conflits. Les détails avec notre correspondante régionale, Augustine Passilli.
L'idée d'une brochure pour promouvoir la paix au Soudan du Sud est née en 2022, puis elle a refait surface début 2023, au moment du pèlerinage œcuménique pour la paix du pape François, accompagné à Djouba de l'archevêque de Canterbury et du modérateur de l'église d'Écosse. Le 27 janvier, les représentants du Conseil des églises du Soudan du Sud et de l'agence de paix néerlandaise PAX ont présenté le fruit de ces mois de travail. Ce nouveau manuel propose des méthodes et des outils non violents de résolution des conflits. Sa particularité consiste à s'adapter au contexte sud-soudanais avec des exemples précis issus des différentes régions du pays. Nous voulons briser cette culture selon laquelle la plupart des gens pensent que les sud-soudanais sont des communautés violentes, a expliqué Emmanuel Ira, le directeur de PAX au Soudan du Sud. Depuis son indépendance en 2011, la plus jeune nation du monde ne parvient pas en effet à s'extraire de cycles sans fin de violence malgré l'arrêt officiel de la guerre civile en 2018. Le processus de paix avec les groupes d'opposition non signataires de cet accord a pour l'instant échoué à faire taire les armes durablement. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Et au Soudan voisin, 25 personnes ont été tuées mardi dans des frappes aériennes de l'armée sur le Darfour Sud, dans une région de l'ouest du Soudan, essentiellement contrôlée par les forces paramilitaires, des sources médicales faisant état d'une escalade de la violence à travers le pays. Les raids ont ciblé pour le 2e jour consécutif Niala, la capitale du Darfour Sud, contrôlée par les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée depuis avril 2023, selon une source médicale qui a requis l'anonymat. Des témoins ont aussi fait état à Niala, à 1200 km de Khartoum, de frappes aériennes de l'armée pour le 2e jour consécutif. Le premier ministre tchadien Alamaï Alina a été reconduit à son poste après sa démission le jour de l'installation des députés de l'Assemblée nationale élus en décembre, a indiqué un décret présidentiel diffusé mardi à la télévision d'État. « J'ai l'honneur de vous présenter ma démission et celle de mes fonctions de premier ministre », a écrit M. Alina. Cette décision s'inscrit dans la tradition républicaine suite à la mise en place officielle de la nouvelle législature mardi, a-t-il précisé. Lancer une campagne de sensibilisation pour combattre la traite des êtres humains et l'esclavage moderne sur le continent africain afin de les éradiquer d'ici 2030. C'est l'objectif d'un webinaire qui aura lieu ce samedi 8 février. Organisé par le Pacte PAN, le réseau panafricain de théologie catholique et de pastorale, l'événement réunira plus de 22 000 personnes qui seront connectées à travers 31 pays d'Afrique et d'ailleurs sur Zoom et YouTube. Nous en parlons avec Roger Dayamba Bendré, sociologue burkinabé et membre de ce réseau.
Le thème de ce webinaire est intitulé comme suite « Redonner l'espoir en Afrique, un appel du jubilé pour mettre fin à la traite des personnes ». Ce plaidoyer, ce programme donc du PACPAN met en relation plusieurs pays d'Afrique. Une trentaine de pays sont mobilisés à travers donc ce réseau PACPAN pour dire non à la traite des personnes. Alors donc ce 8 février 2025, nous serons connectés, interconnectés à travers l'Afrique et donc à travers la diaspora également pour le lancement officiel de cette grande campagne de lutte contre la traite des personnes, de libérer effectivement ceux qui sont pris en captivité par malheureusement des Africains au XXIe siècle.
Quels sont les objectifs poursuivis par les organisateurs de ces webinaires? Quels sont les enjeux?
Alors, il y a plusieurs objectifs. Il faut dire que l'objectif principal de cette campagne est de sensibiliser les jeunes et les personnes vulnérables afin que les autorités, les gouvernementales et tous les acteurs puissent prendre conscience de la réalité du phénomène du trafic des êtres humains. Mais il faut dire que...
De la traite des êtres humains.
Bien sûr, de la traite des êtres humains. Et voilà. Et il faut dire que plus loin, sur le long terme, et notre objectif est de créer un centre en Afrique, selon des centres, pour former des gens. Parce que si jamais on vous demande de ne pas aller ailleurs, de peur de tomber dans l'esclavage, il faut créer des opportunités en Afrique pour pouvoir effectivement contenir, maintenir les gens. Alors donc, sur le long terme, il y a ce grand projet qui est là, qui va viser particulièrement donc les filles, afin qu'elles acquièrent beaucoup plus de compétences et avoir le courage de valoriser donc ce que nous sommes en Afrique et dans nos différents pays, plutôt que d'aller se jeter en captivité. Voilà. Et nous pensons que c'est possible avec tous les acteurs et avec tous les partenaires qui vont accepter de nous accompagner dans cette campagne.
Vous parlez d'une trentaine de pays qui seront connectés pour ce webinaire. Combien y aura-t-il de participants?
Oui, il y aura à peu près, je dirais, nous sommes actuellement à 22 500 personnes qui se sont inscrites et nous faisons une projection de 23 000 participants. Et il faut dire pour ces participations, il y aura une participation in situ, c'est-à-dire des personnes qui seront link via Zoom et également des gens qui vont nous suivre à travers donc et la plateforme YouTube. En gros, c'est 23 000 participants qui seront connectés pour être engagés dans cette lutte contre le trafic des êtres humains.
La traite des êtres humains est un grand fléau dans beaucoup de pays. Quelle est la situation dans des pays africains particulièrement?
Bon, il faut dire que dans les pays africains, le constat est alarmant. Vous voyez, et les Africains, à notre sein même, sont des bourreaux pour leurs propres frères africains. Ils profitent de la vulnérabilité, de la précarité sociale, j'allais dire, et économique des jeunes, des femmes, pour leur imposer ce que je veux qualifier d'un travail forcé docile, d'un esclavage docile. Et donc, en Afrique, c'est commun. L'exploitation donc, sexuelle, le prélèvement des organes, on en parle toujours, le trafic des enfants qui augmente. Et il faut dire que plusieurs jeunes et femmes sont attirés par des offres d'emploi alléchants, soit en Europe ou soit même souvent en Afrique ici, et après, c'est la désillusion. Et je termine par dire que l'exploitation, ce qui est grave, c'est que touche les enfants dans des zones de conflit et même les sites d'orpaillage. Voilà, c'est une triste réalité et nous espérons qu'avec notre engagement, nous allons y arriver. Mais ce qui est là, c'est qu'en tant que chrétiens, nous ne voulons pas rester silencieux face à cette triste réalité et ce triste constat. Et le pape également en parle dans plusieurs de ses discours, y compris le discours d'orientation pastorale.
Vous avez déjà mentionné le travail des enfants, la prostitution et l'exploitation des migrants ou des femmes à des fins de prostitution, justement, sont entre autres parmi des formes de traite les plus répandues en Afrique, alors que parfois les responsabilités se situent généralement en dehors du continent, notamment sur le travail des enfants dans des sites d'exploitation minière. Quels moyens le pacte PAN veut mettre en jeu pour sensibiliser et dénoncer davantage ce drame à l'échelle internationale?
Alors, il faut dire que la chance et la force du pacte PAN, c'est qu'il constitue en lui-même un puissant réseau. Un réseau qui n'est pas exclusivement en Afrique, mais il y a effectivement des représentants, soit pour des recherches et tout, qui sont dans la diaspora africaine, et cette diaspora s'intéresse également à ce que le PACPAN fait en tant que réseau panafricain. Essentiellement, les moyens dont nous disposons, c'est cette ressource, les ressources humaines que nous avons, les théologiens et aussi, comme je l'ai dit, la formation, voilà, qui est un puissant moyen disposé par le PACPAN. Le PACPAN croit en la formation pour pouvoir effectivement venir à bout de telles pratiques.
Vous venez de suivre Roger Dayamba Bendré, sociologue burkinabé, membre du Pacte PAN, le réseau panafricain de théologie catholique et de pastorale, interrogé par Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici, très chers auditeurs, que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.